On reprend le flambeau et on écoute des florilèges de printemps, des émissions vintage. On revient en 2016, donc là vous allez entendre notre conférence de rédaction fait allusion à une actualité qui a assez bien vieilli, je dirais.
Salut les gauchos!
Salut Alex!
Elle nous a abandonnés!
Mais qui?
Bah notre femme!
Mais c'est qui?
Mais Christian!
Oh, mais c'est le plus excellent cappuccino!
Mais non, pas Christian de la cafette, enfin! Christian Taubira!
Oh non!
Mais si!
Oh ouais! Elle a fricopé par surprise, elle démissionne un jour, il n'avait même pas demandé de le faire!
Ouais, c'est triste!
On va pas en faire une émission spéciale!
Bah non! En plus, on peut même pas en faire un sujet parce qu'il y a tous les autres qui vont le faire!
Oh non! Bon, bah on pleure combien de temps là?
T'as raison, il va falloir se
remettre. Ouais. Allez, hop, voilà. C'est qui l'invité?
C'est Bouli Lader.
Mais c'est quoi son prénom?
C'est Bouli.
Non, mais c'est pas un prénom.
Bah, c'est comme dans Boule et Bill.
Bah oui.
Ouais, mais Boule, c'est le chien.
Ah non, le chien c'est Bill.
Mais on n'appelle pas son enfant Boule.
Bah, idéalement, on n'appelle pas son enfant Bill non plus.
C'est vrai. Bon, bah, celui, son prénom, c'est un mélange entre Boule et Bill et c'est Bouli. Voilà.
Bon, alors, quand il arrive, je lui dis bonjour Bouli.
Bah, je peux dire bonjour Jean-Pierre, mais pour la maintenir.
Oui, et puis on a bien préparé la venue de l'invité là. Allez, on passe au sujet.
Allez, bon, c'est quoi? Moi, je vais d'abord chercher un cappuccino. Comme
ça, non, bah écoute, si tu vas, j'ai Christiane.
Bah, oui, oh, la Christiane!
Elle a démissionné! Mais moi, j'avais réussi à l'oublier pendant 30 secondes!
Bon, les gauchons, on se reprend!
Oh non!
Qu'est-ce que ça va être quand Marché va mourir?
On est orphelins!
France Inter et bienvenue dans les florilèges de printemps où nous accueillons deux invités que nous avions reçus en 2016. Il s'agit d'abord de Bouli Lanners avec qui on parlera de Banksy et d'une œuvre pour la jungle de Calais et aussi des prix dans l'art. Enfin, les prix de l'art et le prix dans l'art, mais c'est plutôt les cérémonies et les divers prix, les Césars, les prix de la BD Angoulême, etc. Ensuite, nous recevrons Bérénice Béjot avec qui il sera question de fraude dans les transports. Figurez-vous, et aussi de déclin de l'écrit au profit de la vidéo qui aurait notamment permis l'émergence de personnages comme Donald Trump. Eh ouais, alors on va revenir plutôt en 2022 avec vous Alex et vos choix, non?
Eh bien j'ai quelques chroniques évidemment de 2022, Alina Fanoukoé, de Linda Lindas, vous souvenez ce groupe 100% féminin qu'elle nous avait présenté et qui dépotait, Monsieur Poulpe également, qui nous prépare de la méditation, ce qui est évidemment sa grande spécialité. On terminera en chanson avec Frédéric Fromet et Le Karcher, hommage à Michel Delpech, le Loir-et-Cher, et peut-être un peu hommage à Valérie Pécresse, et le Guillaume Meurice, lui, il est d'époque. Nous nous replongerons en 2016. Il s'était rendu à un colloque des filières post-bac organisé par le Figaro. Tout pour lui.
Quel beau programme que nous entamons tout de suite avec Bouli Lanners.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bouli Lanners, votre dernier film en tant que réalisateur et acteur, et avec Albert Dupontel, sort en salle.
Aujourd'hui.
Today.
On a les chiffres, on a les chiffres.
Alors, les premiers, les derniers.
C'est comme ça les Français.
Chiffres, hein, la journée, ouais. Et ça va commencer ce week-end.
Ouais. Très bien.
Les premiers, les derniers. Alors, dans une plaine, dans une ambiance crépusculaire,
oui.
Peut-être de fin du monde, c'est un peu, ça,
oui,
voilà.
Oui, oui.
Il y a un jeune couple assez simple d'esprit, Esther et Willy. Et puis, il y a aussi, dans la même zone, un duo de chasseurs de primes que vous jouez avec Albert Dupontel, Cochise et Gilou.
Oui.
Il y a aussi Jésus. Mais alors ça, vous irez voir le film et vous
le
comprendrez.
Le pitch est bon, hein, pour l'instant.
Pour l'instant, c'est alléchant. Il y a donc comme ça deux duos. Alors, est-ce que finalement, les simples d'esprit, c'est les premiers hommes? Et puis les chasseurs de primes, les derniers hommes, c'est un peu ça la
les
métaphore?
Les chasseurs de primes font partie des derniers, comme tous les autres crétins, un peu, qui sont dans le film. Et puis, Esther et Willy, c'est le fantasme que j'ai des premiers. Parce que je fantasme le premier homme, je ne l'ai jamais connu,
ouais.
Mais je l'imagine
c'est
pur.
C'est votre projection du premier homme,
ouais,
alors,
ouais,
sur Terre.
Oui, une espèce de projection, elle n'est pas absolue, mais c'est une de mes projections.
Mais ça dans une ambiance de fin du monde, crépusculaire.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas un film du tout sur la fin du monde, c'est un film dans lequel la fin du monde est présente dans la pensée. Une pensée très pessimiste qui est quand même fortement nourrie par l'actualité, mais en allant vers quelque chose de positif, vers la lumière.
C'est votre représentation du monde, un petit peu, qui est projetée dans ce film?
Du monde aujourd'hui,
du monde actuel,
ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de projection sur le futur, mais justement, ça parle de ça aussi, ça parle de si même il y avait une échéance, comment la vit-on? Je pense qu'il faut la vivre le mieux possible, avec le plus d'humanité possible.
Alors, vous avez été très tôt ému par la peinture, et puis adolescent, vous avez fugué dans la nature. Donc on s'y retrouve dans ce film. C'est-à-dire que les personnages courent, les deux duos, les jeunes premiers et les derniers, les chasseurs de primes, courent à travers, il y a une plaine, cette ambiance. Donc il y a vraiment de vous là-dedans, beaucoup, non ?
Dans celui-ci, il y a beaucoup de moi. Pas dans les décors, parce que si j'avais fugué jeune, ce n'est pas dans la Beauce que j'aurais été. mais il y a quelque chose de moi dans la mesure, dans la réflexion existentielle sur l'existence. Voilà, ça c'est sûr qu'il y a, c'est carrément une mise à nu ici. Si il y a une grande partie de moi-même. Mmh.
Est-ce que vous avez voulu faire un film aussi où c'est pas forcément une histoire comme on la connaît au sens des scénarios orthodoxes avec des rebondissements, etc. Où ça prédomine pas, mais où le décor et les personnages prennent le dessus.
Les personnages prennent le dessus, mais un film avec des rebondissements tels que vous me le décrivez, ça je ne sais pas écrire.
C'est
donc
vrai,
c'est un film très personnel, comme ouais. Les autres films. Donc il y a quand même.
Il y a un côté Eldorado,
mais il y a une intrigue quand western. Même parce qu'il y a quand même la recherche de ce téléphone cellulaire qui contient des données pour que il y a une trame. Donc il y a un double suspense quand même.
On ne sait jamais pourquoi il le cherche. On ne sait jamais ce que ça implique.
Non, on sent qu'il y a des trucs pas nets dessus, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ça. Ça permet au film d'avancer.
Moi, j'ai deux références. Vous allez me dire si c'est les vôtres ou si vous les aimez. Fargo, des frères Cohen. Et puis, Trois enterrements de Tommy Lee Jones. Je trouvais qu'il y avait ce côté un peu westernien quand même.
Bah, c'est deux films que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Bien vu.
C'est déjà ça de prix.
C'est l'heure de la chronique, Charline, la chronique de 2022, et elle est musicale, c'est Aline Afanoukoé. Je vous raconte pas trop qui sont de Linda Lindas, parce qu'elle va la raconter elle-même.
Laissez-la faire, ouais, c'est bien.
Je pense que vous allez vous dire que je ne manque pas d'air, parce que je vais vous parler d'un groupe 100% féminin, alors même que nous ne sommes pas le 8 mars, mais la journée internationale de la femme, c'est tous les jours, et surtout ce soir, où on n'est que deux avec Clara.
Qui a décidé de ça ?
Je suis là.
Non, restez en Suisse, vous.
Voici The Linda Lindas.
Gentleman by day, hunter by night, friendliest cat for me, will protect you with all his might.
Nous sommes en Californie ce soir, les amis, avec un véritable petit phénomène depuis quelques mois, The Linda Lindas, deux sœurs, une cousine et une amie, âgées entre 11 et 17 ans, formées il y a 4 ans. Ce quatuor féminin punk rock d'origine asiatique, américain et latino s'est fait connaître avec un titre coup de poing, une chanson de révolte intitulée Racist Sexist Boy, qu'elles ont écrite après qu'un camarade de classe ait dit à Mila, la batteuse du groupe, hey, mon père m'a dit de rester loin des Chinois. Bonne année du tigre à tous, hein. Bonne année du tigre d'eau à tous, on la tient, la belle punchline ouvertement raciste. Évidemment, ces propos ont mis en colère les quatre jeunes femmes qui en ont fait une chanson. Elles en ont profité pour pousser un coup de gueule et dénoncer le sexisme des garçons de leur génération. Ça donne donc Racist Sexist Boy, un morceau qu'elles ont chanté dans la bibliothèque publique de Los Angeles au printemps dernier. La vidéo de leur performance a été vue plus de 4 millions de fois sur Instagram, saluée par des personnalités comme Tom Morello de Rage Against the Machine, par Flea de Red Hot Chili Peppers, Questlove, le batteur de The Roots, ou encore Sonic Youth. Et l'écrivain américain Viet Thanh Nguyen, quant à lui, a déclaré « Racist Sexist Boy » est la chanson dont nous avons tous besoin maintenant. Alors en voici un extrait tout de suite.
Ok. Elle a 11 ans, la demoiselle.
Elle a 11 ans, la patouche. Elle était colère.
Bah oui.
Faut pas la chercher.
On dirait Charline.
La batteuse chante en même temps, hein. C'est la plus jeune.
C'est Priscilla Tal, en fait.
À l'instant, donc, le déjà fameux Racist Sexist Boy des Linda Lindas, chanté pour la première fois live à la télé. C'était dans le talk show américain de Jimmy Kimmel sur la chaîne ABC. The Linda Lindas, c'est toute l'énergie et la force d'adolescente extrêmement mûres déjà, vous l'avez entendu. Dans le jeu, elles sont capables de canaliser le punk classique, le post-punk, la power pop, la new wave, et dans le verbe avec des textes accrocheurs, engagés. Et c'est cool à la fois, bah oui. Oh !
Quoi ?
C'est un extrait !
Ah bah oui !
Au boulot ! Elles sont très très fortes. Le premier album du quatuor Linda Lindaz est prévu pour le 8 avril. En voici un tout nouvel extrait sorti fraîchement là. Ça s'appelle Growing Up.
Grandir un peu.
De Linda Lindaz, le choix d'Alina Fanoukoé très récemment. Donc nous allons revenir en arrière, vous savez, les grands crus classés des émissions de Bar Jupiter. En 2016, on poursuit la discussion avec Bouli la Nurse. Allez, sujet 2 avec Banksy, qui a peint une causette devant l'ambassade de France à Londres. Une œuvre qui dénonce la gestion de la jungle de Calais par l'État français, ou plutôt la non-gestion. Hein. Les autorités londoniennes ont recouvert l'œuvre d'un panneau en contreplaqué. À Paris aussi, il y a un panneau en contreplaqué devant les yeux de François Hollande, qui n'a toujours pas mis les pieds à Calais.
On dirait que ça te gêne de marcher là-bas. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Michel, Michel Delpech évidemment. Alors, Juppé y est aujourd'hui, Alain Juppé, il est dans la jungle de Calais, il a enfilé ses bottes, c'est parti. Sarkozy pas encore, hein, le temps de fabriquer des bottes à talonnettes, et va y aller. Alors, Bouli la Nurse, voilà, donc le sujet a attiré notre attention, parce que c'est une fois de plus Banksy qui a déjà fait plusieurs dessins, il est graffeur, et là il en a fait un à Londres, devant l'ambassade de France, donc en mettant la France en face de ses responsabilités. Donc l'idée officielle, c'est que le dessin a été caché pour le protéger.
Ouais, pour le protéger.
Oui, voilà.
Bah, je trouve qu'il devrait mettre des panneaux au Louvre devant tous les trucs, ça protégerait aussi.
Un peu comme pour Rohani, c'est comme, ils sont confondus. En fait, ils pensaient que Rohani allait passer à Londres. Oui.
Ils ont tout protégé, toi. Non, je comprends pas très bien. C'est néanmoins une excuse bidon. Mm-hmm. Donc.
Mais l'art joue là son rôle d'attirer l'attention sur les choses. De
bah,
toute
ça,
façon,
c'est très bien. Ça, ouais. Ça marche. Ouais, et puis l'œuvre, elle est toujours là. Mais de la recouvrir, c'est totalement iconoclaste. Donc c'est complètement crétin aussi d'avoir une excuse aussi bête que ça.
Alors, ils l'ont utilisé parce qu'il y a des œuvres de Banksy qui ont déjà été volées. Et ça vaut plusieurs millions. Oui, donc on va chauffer quelques temps.
Il faut voler la maison.
Ouais, il faut voler le mur.
Ouais, voilà.
Mais alors, pourquoi on ne fait pas une vente si ça vaut des millions pour profit des gars de Calais?
Je me suis posé la même question. Je me
dis, monter le mur déjà, il faut un mec, il faut y avoir un
transport.
J'imagine qu'il le fait, il y a plusieurs façons, sans son petit niveau, d'essayer d'apporter sa petite pierre, d'aider. Vous, Bouly Lanners, quand vous voyez la jungle de Calais, l'État français qui ne semble pas bouger, on envoie Bernard Cazeneuve plusieurs fois, puis là il va y avoir sans doute un défilé de candidats, Juppé y est, toujours il y a un soupçon d'instrumentalisation des choses, de dire il est venu surtout dénoncer l'inaction du gouvernement, etc. Vous, votre regard de citoyen.
Moi, ça regarde le citoyen belge, c'est-à-dire que la jungle de Calais, elle est à Calais parce qu'il y a le tunnel, parce qu'il y a, voilà. Ouais. Mais alors, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la sortie du premier ministre belge qui a dit à la France, nous n'avons pas la jungle de Calais, mais c'est parce que nous n'avons pas Calais. donc le jour où ils vont tous débarquer à Zeebrugge, on aura la jungle de Zeebrugge. Donc c'est un problème qui est pas lié à Calais, c'est un problème qui va se poser partout et à possibilité de rejoindre l'Angleterre. Ouais. Donc c'est un vrai problème européen qui doit être pris à bras le corps et tout de suite, quoi.
Est-ce que aussi en tant que citoyen, vous sentez ce côté tellement démuni et une forme de rage et d'impuissance?
Ça m'exaspère. Ouais. Quand je vois, parce que j'y étais il y a pas longtemps encore, ça m'exaspère.
Vous y êtes allé?
Oui. Parce que je prends le bateau, donc du coup, j'étais voir.
Qu'est-ce que vous avez vu, Bouly?
J'ai vu, c'est un dépotoir humain. C'est les conditions de vie. Quand on décriait les bidonvilles autour de Paris après la guerre, on est là-dedans, quoi. C'est insensé qu'on ne fasse rien. Il y a une violence latente permanente. La jungle, ça porte bien son nom, quoi. C'est une situation intenable pour les gars. Les gars n'en peuvent plus. C'est une honte. C'est la honte absolue pour moi.
C'est la honte de l'Europe, ouais. Et de la France.
Pour revenir à Banksy, l'artiste qui voit ça et qui donc a envie de créer, est-ce que c'est une démarche qui vous parle ou si vous créez en disant si les gens s'approprient des messages, ça me va? Ou c'est la démarche inverse de dire j'ai envie de dénoncer des choses?
Non, c'est bien ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait alimente le débat, donc c'est bien. Après, maintenant, ce qu'on fait de son œuvre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le débat existe et c'est ce qu'il veut, lui.
Et qu'il l'ait fait.
Ouais, il l'ait fait, donc c'est ça qui compte.
Allez, on passe au troisième sujet avec vous, Bouly Lanners. Pas de noir aux Oscars, pas de femme à Angoulême et au César, pas de comédie.
Je veux juste dire un petit truc.
Oui, Marina.
Voilà, on dit beaucoup, c'est pas grave de pas avoir le César, ce qui compte c'est d'être nommé. Eh ben, c'est pas vrai. Non, mais faut pas mentir aux jeunes, c'est horrible de pas l'avoir, c'est atroce, hyper humiliant. T'arrives en limousine, tu repars en bus. Non, en plus... Il y a un truc, c'est que c'est cruel parce que tu te souviens pas de ceux qui l'ont pas, hein. Alors que bon, après tout, je veux pas si mal que ça. Non, mais c'est vrai, par exemple, l'année dernière, meilleure actrice, vous vous souvenez de qui était nommée? Non. Par contre, vous vous souvenez très bien de qui l'a eu.
Bérénice Bejo.
Pardon?
Marina Foïs au César. Voilà, donc la polémique a commencé d'abord. Il y avait Angoulême, où il n'y avait pas de femmes dans les nommées. Bon, finalement, on a fait une liste, on a injecté des femmes, puis on a retiré la liste. Enfin, c'est un pataquès incroyable. Aux Oscars, pas de noir. Alors, la pataquès aussi avec dérapage de Charlotte Rampling, qui est revenu sur ses propos. Voilà. Et est-ce que tout ça, Bouly Lanners, ça ne montre pas un peu la limite du système de mettre des œuvres et des artistes en compétition?
Mais si, qu'on arrête les prix, ça me saoule les prix, moi.
Vous êtes nommé au Magritte.
Bah ouais, mais je l'ai pas demandé.
Oui, c'est l'équivalent des Césars en Belgique.
Voilà, en Belgique francophone.
Francophone.
C'est un peu comme si on remettait les prix du cinéma alsacien. Non, mais ça sert à rien. Ça nous met dans un... Je déteste cette période où il y a les BAFTA, les Golden Globe, les Oscars, les Césars, les Magritte, où tout le monde finalement rentre quand même dans la compétition et tout le monde est mal. Ça fait ressurgir des trucs de jalousie, d'aigreur et tout ça. Et ça sert à rien.
Est-ce que ça fait pas parler
parce
des films.
Parce que je suis pas là.
Il y a des films qui sont relancés ou qui sont vus parce
ils sont jamais relancés. C'est-à-dire que quand les Césars apparaissent ou les films sont sortis, les Magritte, les Césars, les films ont déjà eu leur existence. Et il y a tellement de sorties de films chaque semaine qu'on ne ressort pas des films parce qu'un type a eu le César du meilleur second rôle. Jamais.
Il y a une forme d'obligation professionnelle, de poids, le poids sociétal en fait.
Il y a
qui fait que vous allez aller au Magritte.
Aujourd'hui, même à Angoulême, même en BD ou en cinéma, ils sortent tellement d'œuvres chaque semaine, chaque mois, chaque année, que réduire ça à une remise de prix, ça n'a plus aucun sens. Ça veut dire qu'on réduit aussi tout ce qu'on pourrait voir ailleurs. Les gens focalisent là-dessus et on oublie de voir plein de choses qui ne seront même jamais nominées, qui sont absolument magnifiques. Donc, moi, je trouve que c'est très réducteur de rendre des prix.
Parlons même pas de la Nouvelle Star.
Sauf quand. Non, par exemple, le dernier Goncourt, moi, j'adore. J'étais pas du tout fan des Goncourt en principe. Et c'est Mathias Hénard. C'est un livre difficile. C'est l'histoire d'un musicologue viennois qui délire pendant une nuit de fièvre. Je veux dire.
Et peut-être si que s'il n'y avait pas eu le Goncourt.
Il n'y a pas la même frénésie quand tu remets un prix en littérature que quand tu remets un prix en cinéma, en musique.
Et vous aviez organisé en Belgique le festival de Cannes avec K, avec les films ratés, les films d'entreprise et les plus.
Ça, c'est chouette.
Et ils étaient tous gagnants, enfin, ils étaient tous perdants.
Si on augmente les catégories vers un meilleur second rôle noir dans un film réalisé par une femme hétérosexuelle, et hop, comme ça, il n'y a plus de. Bon, je vais vous donner le prix à l'avance du meilleur acteur dans le sketch de fin d'émission, parce que si vous acceptez, tous les jours, on prépare un sketch pour l'invité. Vous êtes Roani. Et vous allez visiter, en compagnie de François Hollande, le Louvre et les musées parisiens. Attention, on s'y rend. C'est parti.
Monsieur Roani, on est très heureux de pouvoir vous montrer ces joyaux du patrimoine français.
Oui, ils m'ont dit la même chose chez Airbus et Renault et Papy Brossard.
voilà le guide.
Non, le guide, c'est moi.
Non, pas le guide suprême, le guide du musée.
Voilà, monsieur Roani, voici la Vénus de Milo, chef-d'œuvre de la sculpture grecque.
Hein, il s'est piqué la charia en Grèce.
Pourquoi?
Elle a volé, quoi. On lui a coupé les bras.
Non, elle n'a rien volé, non. C'est même nous qui l'avons volé, en fait.
Ah, j'aime bien cette statue.
Ah bon?
C'est une femme et on ne reprocha pas de pas lui serrer la main.
Oh, il est amusant.
Mais c'est pas pour rire.
Donc là, nous avons la fameuse Joconde ici. Là.
C'est dommage, il y a une vitre, j'aurais bien aimé lui serrer la main.
Attendez, mais je comprends plus rien. J'ai cru que vous ne serriez pas la main aux femmes.
Ah, moi, on m'a dit que c'est pas sûr que c'en est une.
Ouh, vous confondez avec un mandalire. Non.
C'est dans quelle salle?
Non, c'est pas exposé ici, mais ce sera dans la partie égyptologie. C'est les momies, ça.
Et ça, c'est quoi?
Alors, ça, on m'a demandé de pas vous la montrer.
C'est un oursin?
Non, c'est Gustave Courbet, l'origine du monde.
Et pourquoi je pouvais pas voir ça?
Ah bah en Iran, vous avez des soucis avec le chat, alors on s'est dit de vous montrer une.
C'est de l'humour.
Oui, pardon, parce que j'écoute beaucoup les grosses têtes en ce moment.
Oui, vous avez raison, moi, c'est pas une femme qui présente l'émission.
Mais en tout cas, je suis ravi que l'art vous plaise, monsieur Roani.
Ah, tout ça me plaît beaucoup, j'achète l'ensemble.
Non.
Vous pouvez m'y livrer quand, à Téhéran?
Non, monsieur Roani, non, c'est pas à vendre.
Mais tout ce qu'on montre en France, c'est pour me le vendre.
Non. D'ailleurs, je compte vous présenter Julie Gaillier.
Ah, bah j'achète.
Non.
Pourquoi vous la montrez?
Et bien, pour le plaisir.
Voilà. Comme ça, voilà. Moi, on vient pas en plan pour le plaisir.
Ah, désolé.
Vous savez quoi? Je rentre chez moi et je vais relancer mon programme nucléaire.
Et voici qu'a sonné l'heure du moment Meurice, Alex.
Moment Meurice de 2016 qui mélange trois de ses passions, les colloques, l'éducation et le Figaro. Vous mettez ça ensemble, vous secouez. On y va tout de suite.
Moi, je me suis rendu à un grand colloque destiné aux lycéens et consacré aux filières post-baccalauréat ce matin. Il avait lieu à l'espace Cardin à Paris et il était organisé par le journal Le Figaro. Et c'est ça qui m'a intrigué. Le Figaro qui s'occupe de la jeunesse et de l'avenir, ça m'a immédiatement intéressé. Mais je suis pas sectaire. Hein. Si le journal La Croix avait organisé un colloque sur le satanisme et le fist-fucking, j'y serais allé aussi. Je suis avant tout curieux de nature. L'avenir de la France, ça me passionne. Moi, hein. Je suis comme Laurent Wauquiez. Je ne tiens pas à ce que les jeunes se lancent dans des formation fantaisiste pour devenir clown, marionnettiste ou pire, carrément Laurent Wauquiez. Hein. Clairement, je ne souhaite pas ça. Personne ne rêve ça pour son gosse. Même Véronique Courgeot a choisi un meilleur avenir pour ses enfants. Je me suis simplement demandé que deviennent les rêves d'enfants au moment de choisir un avenir professionnel. Réponse d'un jeune lycéen.
Mes rêves d'enfant, alors je vous dirais pas forcément que c'était de monter mon entreprise, mais voilà, travailler bah forcément peut-être comme nos parents ont fait, ou travailler en tant que cadre dans les entreprises.
Alors on n'est pas là pour juger hein, les rêves de chacun, attention. C'est vrai qu'on a tous, gamins, rêvé de devenir cadre d'entreprise. On a tous rêvé de tickets resto, de réu, de conf call hein, avec notre N+1. On a tous joué à faire une dépression nerveuse en prenant des tic-tac pour imiter le Lexomil, voilà. On a tous fait ça. Ça peut même arriver qu'à 10 ans, on se dise... Oh, si seulement un jour je pouvais faire de l'audit financier.
Et oui, oh,
on
l'a... Oui,
évidemment, on est tous pareils. Qu'est-ce qui fait rêver un jeune dans les métiers de l'audit? Demandons à un professionnel du secteur.
Qu'est-ce qui fait rêver un jeune dans les métiers de l'audit? C'est un choix par rapport à l'expertise comptable, parce que l'audit, c'est le deuxième métier de l'expertise comptable, c'est l'autre facette du métier.
Est-ce que vous, à 18 ans, vous rêviez de faire de l'audit?
Ben, j'en ai fait pas à 18 ans, j'en ai fait à 22 ans.
Ah, c'est beau, mais c'est beau de réaliser son rêve à 22 ans. C'est un message important pour les enfants qui nous écoutent, hein. Si vous rêvez de faire un diagnostic financier de la CGLEC à Pontoise, par exemple, eh ben, c'est possible. Battez-vous, vous allez y arriver. La persévérance, ça paye. Et quand je dis ça paye, c'est également au sens premier du terme. Exemple avec un économiste qui enseigne dans une école de commerce. Est-ce qu'il a toujours voulu faire ça?
Non, je voulais être médecin surtout. Voilà. Mais je pense que j'avais pas la force de caractère pour être médecin. Donc l'économie, ça m'allait bien. J'étais docteur, mais pas en médecine.
Ah, vous vouliez être médecin et vous avez fait de l'économie du coup?
Exactement, tout à fait. C'est très proche, hein.
Le point commun, c'est l'argent finalement.
Exactement, tout à fait.
Oui, alors je vous rappelle que le colloque était organisé par le Figaro, hein, pas par la Gazette du Bégonia. Donc pas de formation en jardinerie, par exemple, hein, ni par Fracture Ouverte Magazine. Donc pas de formation pour être infirmier, hein, essentiellement de la vente, de l'économie, du marketing. C'est dommage parce que quand on est enfant, on peut avoir d'autres projets. Lesquels, par exemple, pour cet étudiant qui s'est finalement inscrit en école de commerce?
Je voulais être avocat. Je voulais être pompier, militaire. Enfin, j'ai eu beaucoup d'envie et puis
en arrivant... Ah oui, ça n'a plus rien à voir là.
Non, non, ça n'a vraiment plus rien à voir. En terminale, j'ai vu qu'on pouvait rentrer en école de commerce et faire des choses tout aussi intéressantes. Donc j'ai tenté ma chance et je suis allé en commerce.
Est-ce que quand vous étiez petit, vous gagnez au Monopoly tout le temps?
Non, non, je trichais, je voulais à la banque, mais...
Ah bah vous êtes prêt pour le monde de la finance, là? Eh bah oui, alors là, ça s'appelle plus des rêves, mais des prédispositions. Hein, c'est comme André Manoukian qui, dès l'âge de 6 ans, faisait croire à ses camarades qui s'y connaissaient en musique. Hein, rien n'a changé, finalement. C'est comme Éric Ciotti qui, dès l'âge de 8 ans, demandait la démission de Christiane Taubira dès qu'il était envoyé au coin. Hein, rien n'a changé. On le salue, hein, Éric, d'ailleurs, hein, qui a été obligé de changer de caleçon quand il a appris la nouvelle ce matin. Donc, yes, ceux qui se laissent aller à leur prédisposition, et puis il y a ceux qui abandonnent complètement leurs rêves. Lesquels, par exemple?
C'était un peu comme tout le monde, les pilotes d'avion, astronautes, etc.
Où est-ce que ça a merdé, alors, du coup?
Les rêves d'enfant, un jour, il faut bien se réveiller et chercher qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, et en fait, essayer de trouver au moins un domaine qui nous intéresse afin de pas se lever tous les matins comme si on allait au cimetière.
Ne pas se lever tous les matins comme si on allait au cimetière, belle ambition, sauf si votre rêve est de devenir croque-mort, hein. Attention, bien sûr, sinon ça n'a aucun sens. Donc, astronaute, pilote d'avion, tout ça, c'est fini pour lui, parce que c'est vrai, les rêves, parfois, ça évolue.
Par exemple, les rêves dans l'informatique, comme mes études, c'est par exemple de pouvoir un jour travailler à Facebook ou Google, qui sont les tops du secteur.
Ça, c'est votre nouveau rêve, du coup.
C'est ce qu'on pourrait appeler un nouveau rêve, en effet.
Voilà, vouloir devenir astronaute pour explorer l'univers et finir ingénieur chez Facebook à bosser sur un algorithme de vidéos de chatons qui se coincent la tête dans un seau. On a clairement changé de braquet niveau ambition. Le poète Paul Valéry disait que le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. J'ajouterais que c'est surtout de ne pas se laisser endormir.
Guillaume Meurice.
Rappelez-nous, Guillaume Meurice, quelles études vous avez fait, vous?
J'ai fait des études pour emmerder les gens. Et j'en fais aujourd'hui profession.
Il a fait des études. Et les vraies études?
Exact. Non, j'ai fait un DUT de gestion, évidemment.
Non. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Tout bêtement, j'ai suivi un copain qui faisait ça. Je n'avais aucune ambition.
Et
je m'excuse auprès des professeurs que j'ai emmerdé pendant 2 ans.
Les jours passent et se répètent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la fenêtre. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la fenêtre.
Je sais pas ce que tu fais là. Tu mérites tellement mieux. D'évidence, tu partiras. Tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit.
C'était Jacques, ça se voit sur la playlist France Inter avec une programmation musicale de Djoubaka. Avant d'entamer donc cette deuxième partie d'émission, puisqu'on change d'invité et on reçoit Bérénice Béjot, enfin on reçoit.
On recevait.
On recevait en 2016. On la réécoute dans ses Florilèges de printemps.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Bonjour Bérénice Béjot.
Bonjour à vous tous.
Quel palmarès cinématographique incroyable. Et c'est votre première fois au théâtre, si j'ai
oui.
bien lu. Et voilà. Et Alex Vizorek était hier soir dans la salle.
Mais oui, moi je vous avais quitté en femme abandonnée dans Joachim Lafosse. Et je vous retrouve ici en femme convoitée dans cette pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. C'est la première fois que Bérénice Béjot fait du théâtre. Alors ça fait 5 jours.
Mm-hmm.
Comment ça se passe?
Ça se passe de mieux en mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est comme une première fois. Ça fait quoi, 15-20 ans que je fais du cinéma. J'ai ma petite carrière qui se met en place. J'ai des choses qui se sont quand même super bien passées.
Ça se passe pas mal, hein, on peut le dire.
Vous avez une petite carrière qui est sympa. Hein.
Non, mais ça va, tout va bien. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi aller jouer au théâtre Édouard VII dans une pièce avec des auteurs aussi, réputés. Enfin, je me suis pas rendu compte de
ce que ça avait. Stéphane De Groot comme partenaire, c'est pas un peu irradiant comme ça d'avoir un Belge talentueux autour de vous?
C'est pas votre ami, dis donc. Hein, on sent que c'est votre
un
ami.
Peu,
non, mais tout. Moi, j'ai pris ça comme en me disant bon, ça va me changer. Je vais faire quelque chose de nouveau.
Mais le duo fonctionne hyper bien, ouais. Ça, quand même. Je vous tiens à le dire. Et je voulais juste savoir comment on choisit sa première pièce, parce que vous avez un nom prédestiné au théâtre déjà, un prénom prédestiné au théâtre.
Bah, je vous dis, en fait, j'ai pas tellement choisi. C'est que c'est.
Ça fait bien 20 ans qu'on vous en propose.
Non. C'est moi, je voulais pas faire de théâtre de toute manière. Ça ne m'intéressait pas parce que j'avais.
C'était pas la même question. On vous en proposait.
Non, mais je ne voulais.
J'avais dit
à mon agent de toute manière, ça ne m'intéresse pas. Je veux même pas savoir parce que j'ai une famille, des enfants qui étaient petits et je voulais pas sacrifier ma vie pour le théâtre. Là, mes enfants sont un petit peu plus grands, donc ça, je peux les emmener. Ils peuvent s'amuser un peu. Et du coup, je commençais tout juste à me dire, tiens, pourquoi j'irais pas faire un peu de théâtre? J'ai tellement fait de cinéma dernièrement, j'ai envie de changer. Et 2 semaines après, j'avais cette pièce. Donc c'est un coup de chance énorme. Et la pièce est une pièce qui parle d'amour, qui parle d'amitié, qui parle de rencontres, qui fait du bien, qui est légère, qui est tendre, qui est intelligente et qui me faisait du bien, quoi.
J'en parlais pas trop parce que c'est toujours difficile avec ces deux auteurs qui sont formidables dans la façon de trouver des rebondissements. Mmh. Jusqu'où on peut raconter le pitch? Votre voisin, c'est Stéphane De Groot.
Qui est formidable.
Oui, qui est formidable, qu'on aime beaucoup.
Qui est très drôle.
Oui, qui est très drôle.
Mais vraiment attendre que les gens arrêtent de rire pour que je puisse dire ma réplique d'après.
Tout ça marche bien. La mécanique est huilée. Mais donc il vient chez vous, vous êtes écrivain. En manque d'inspiration. Mm-hmm. Et après, racontez jusqu'où vous voulez, parce que ça n'arrête pas.
Bah oui, c'est un écrivain qui s'inspire, qui écrit sur sa vie, qui a eu une vie plutôt malheureuse. Et là, elle a l'impression que tout va bien, que sa vie va bien, qu'elle a un homme formidable, un appartement sublime. Elle écrit des pièces à succès. Et donc, du coup, elle n'a plus d'inspiration.
Ça pose la question du faut-il souffrir pour créer?
Bon, moi, je dirais non. mais en tout cas, voilà. Et cet homme arrive et lui dit, mais peut-être que finalement tout ne va pas si bien, et surtout, vous n'avez pas forcément besoin d'aller mal pour écrire.
Mmh. Bérénice Béjot va aborder le premier sujet d'actualité avec vous. Vous avez vu qu'on allait au fond des choses et qu'on était très sérieux. Mmh. Donc le premier sujet, c'est l'Île-de-France qui déclare la guerre à la fraude. La guerre, c'est l'expression choisie, hein, je le signale. Toute la France est concernée par la fraude dans les transports. Elle laisse une ardoise de 500 millions par an. Ça n'arriverait pas si les transports étaient gratuits. Et d'ailleurs, ça attirerait sans doute de nouveaux usagers pour voir.
m'entends? Je suis dans le métro là. Ah ben c'est pire que ce qu'on imagine quoi. C'est les gens. Bah les gens ils sont normaux mais vraiment genre normaux quoi. Genre normaux mais le bas de l'échelle du normal quoi. Il y a même des enfants. Est-ce que je peux avoir votre place s'il vous plaît?
Oui.
Merci. Merci. Parce que sinon je suis debout.
C'est connasse, bien évidemment. Bérénice Béjot, avec votre notoriété, est-ce qu'il vous arrive encore de prendre les transports en commun, ou du moins le train, tiens, le TGV ou le métro?
Oui, bien sûr. Ouais. Je prends plus trop le métro depuis 2 ans, mais ça n'a rien à voir avec ma notoriété, ça a à voir avec mon vélo électrique.
Ah bon?
Mais sinon, je me déplace généralement beaucoup, beaucoup en vélo, et depuis que j'ai mon vélo électrique, mais alors vraiment plus jamais le métro, mais je le prends. S'il pleut et que je dois emmener ma fille à l'escalade, je prendrai le métro, quoi. Mmh. Les gens vont me regarder un peu comme ça, mais en même temps, ils s'en fichent. Hein.
Alors, il y a un dossier dans Le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique l'ampleur de la fraude. Il y a un journaliste qui a tenté de frauder pendant une semaine pour voir s'il était vraiment coursé par les contrôleurs, et il se rend compte que c'est pas tellement le cas.
Moi, j'ai beaucoup fraudé.
Ah, c'est vrai?
Oula, régression.
Beaucoup.
Oui, dans le métro.
Plein de fois, mais tout le temps. Mais en fait, je trouve ça, comment on dit, c'est quand même assez débile, quoi. Excusez-moi, mais à Londres, il y a des contrôleurs. Ici, en France, ils se cachent derrière les couloirs. Vraiment, mettez-vous devant et faites en sorte que les gens payent. Mm-hmm. Sinon, enfin, je trouve ça, mais vraiment, mais nul. Quoi.
Effectivement, il y a un côté aussi dissuasif aux contrôleurs et qui permettent de
mettez
de
un contrôleur et arrêtez la fraude, mais faites pas, cachez-vous pas derrière le couloir. Quoi.
Et donc, comme vous trouvez que c'est mal organisé, vous fraudez.
Non, bon, enfin, quand j'étais jeune, je fraudais plein de fois parce que c'était cher. Parfois, il y a trop la queue, c'est trop long. De toute manière. Bon, je suis désolée. Hein,
non, mais vous avez le mérite de l'honnêteté. Et puis, vous êtes très, très nombreux à nous écouter, à frauder aussi. Et moi, je vais le dire aussi. Moi,
c'est monsieur.
Moi, j'ai déjà pris le train.
Il y a des fois,
ça m'est arrivé.
Bah, voilà.
Ça m'est arrivé.
Voilà.
La machine est cassée.
La jeunesse.
La machine est cassée. Moi, la SNCF ne peut pas prendre mon service, mon ticket. Ben, voilà.
Franchement,
voilà,
bon, maintenant que je suis grande, je le fais plus trop quand même.
Apparemment, les Français sont assez bienveillants vis-à-vis des fraudeurs.
Ah bah oui, moi je tiens les portes aux gens qui veulent passer. Bah oui,
je donne de l'argent aux fraudeurs.
Non, mais vous le faites pas, vous. Moi, il y a quelqu'un. Bah oui, enfin,
à un moment donné,
soit tu paies des gens qui sont là pour contrôler, soit, bah écoute, il a pas de thune, le pauvre.
Moi, je pense que voilà. Brassens proposait de faire des croche-pattes aux policiers.
Ouais.
Donc, c'est une tradition française.
C'est une tradition.
Quel bonheur de discuter avec Bérénice Béjot, Charline. Je me permets juste d'interrompre pour une petite chronique, on y retournera. Chronique de Monsieur Poulpe qui date de janvier 2022. Ça va méditer.
Bonjour tout le monde, c'est la chronique de Poulpe, ça groove, ouais. Doja Cat sur France Inter avec Woman, les femmes, on les adore, on les embrasse, on les déteste, mais elles nous laissent pas indifférents. Bonjour tout le monde, ça va? Les filles, Charline, Juliette, Clara, Guillaume, ouais. Cette chanson était pour vous.
Merci.
Yegor, bonjour, comment allez-vous en ce mois de janvier, Yegor?
Bah plutôt bien.
Ouais.
Ouais, c'est étrange.
Vous m'aidez pas dans ma chronique, mais je vais faire comme si vous aviez dit que ça allait pas. Alors selon une étude scientifique, le mois de janvier est le mois le plus triste de l'année, comme vous disiez à l'instant, Yegor. Il y a une autre étude scientifique qui montre que certains lapins mangent 300 crottes par jour. C'est dingue, hein. Ça n'a rien à voir, mais je trouvais ça incroyable comme chiffre. Bref, on va plutôt parler de la tristesse du mois de janvier. Ce lundi 17 janvier qui arrive, on s'apprête à vivre le jour le plus triste de l'année, puisque le troisième lundi du mois de janvier, alas, le Blue Monday, ou en français, le jour à la merde, hein, parfaitement traduit, serait le jour le plus déprimant de l'année. Mais vous me connaissez, Yegor, je suis votre bon gros loulou, et vous pouvez compter sur moi, et donc vous aider, ainsi que nos auditeurs et auditrices, à surmonter ce cap. Je vous propose de trouver de la sérénité grâce au développement personnel. Car dans le développement personnel, il n'y a pas de jugement, pas d'opinion préconçue, c'est respectueux de l'humain, c'est quand même beaucoup mieux que vos romans de merde, Clara. Pardon, je suis désolé, mais un roman c'est inventé, Igor est d'accord avec moi, je pense juste on invente, il n'y a rien d'exceptionnel en fait, c'est nul quoi. Genre, on peut juste dire, ah Tom Tom et Nana vont chercher un saucisson, ok, waouh, super, on peut en faire une trilogie, génial. Bref, pour affronter ce mois de janvier pas facile, je vous propose à vous qui nous écoutez, à vous aussi dans le studio, une méditation guidée, un moment pour vous. Alors fermez les yeux et prenez vos chaussures de randonnée mentale, puisque je vous amène en voyage intérieur. Je vais vous demander de prendre le temps. Inspire, expire. En pleine conscience de vous-même, vous êtes détendu. Vous commencez maintenant à former une image mentale. Vous êtes dans un couloir d'immeuble. La moquette est chaude. Vous êtes relaxé. Des chiens courent vers vous et aboient. De la bave pend de leur canine dirigée vers vous. Vous êtes détendu, zen, apaisé.
Vous vous dirigez vers un ascenseur. Le soleil traverse la vitre. Il vous réchauffe. Inspire, expire. C'est un moment doux où vous êtes bercé par la vibration de l'ascenseur. Petit à petit, les câbles lâchent, un par un. Vous les regardez, vous êtes zen. Soudain, l'ascenseur tombe très vite. Vous êtes relaxé, détendu. Vous regardez par la vitre. Le sol se rapproche très rapidement. Inspire, expire. Guillaume et Juliette, détendez-vous. Parce que moi, je suis là pour vous, en fait. Donc, vous vous apaisez. Parce que si vous n'êtes pas détendu, je vais vous taper très, très fort. Je vais vous taper fort. Vous êtes maintenant face à un lac paisible. Vous vous allongez sur la plage, calme et tranquille. Et vous allez maintenant lâcher prise. Vous sentez le sable à vos pieds. Vous êtes ancré. Il est temps de vous reconnecter avec vous-même. Il est temps de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Inspire, expire. On écoute son enfant intérieur. Bébé tout sale. Bébé a fait caca. Il faut laver bébé. Bébé a été très vilain. Bébé et Guigui vont devoir prendre un bain. Et Juju va laver bébé. Frotter bébé. Voilà, vous êtes apaisé, vous êtes parfaitement serein. Grâce à ces exercices, vous avez oublié vos tracas du quotidien, que vous sentez désespérément seul, même en couple, hein, vos problèmes d'argent, ou même que le capitalisme qui consiste à vous spolier le fruit de votre travail pour enrichir une élite qui ronge la planète. Vous avez même oublié le Covid, hein, qui ne s'arrête jamais, qui empêche toute possibilité de projection dans le futur et nous prive finalement de la vie et de tout sens qui nous fait prendre conscience de la vacuité de notre existence. Voilà, vous avez oublié justement tout ça, sauf une chose bien sûr, c'est qui votre bon gros loulou ? C'est bébé.
C'était Monsieur Poulpe, mon gros bébé. On peut le retrouver du mardi au vendredi sur Twitch à 9h30. Sur sa chaîne Chez Poulpe, en compagnie de David Mourier, dans son émission Morning Gallery.
Vous êtes invité, bien sûr.
Oh, merci, mon Poulpinou. Revenons à présent au quinquennat Hollande. Nous sommes en 2016, nous recevons Bérénice Bejo. On parle d'écrit versus la vidéo. Après 6 ans passés en prison, un blogueur iranien découvre l'étendue des dégâts sur le web. La vidéo a supplanté l'écrit. Et c'est un problème démocratique, dit-il. Voyez un petit peu, par exemple, les conséquences.
Eh, hey, monsieur, comment vous appelez ?
Ah, alors il faut aussi que je me présente. Voilà, je m'appelle Gérard Barbier. Je vais vous l'écrire.
Monsieur, il y a 2P à l'appel.
Il y a 2P à t'appel ? Appel, ça prend 2P. Appel, ça prend 2P ? T'es sûr ?
Oui.
C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir. C'est bien, Nicolas, bravo. Peux t'asseoir.
Coluche dans le maître d'école. Dans votre utilisation du web, Bérénice Bejo, est-ce que vous privilégiez les contenus vidéo ou l'écrit ? Ou alors vous n'allez pas tellement sur le web, finalement ?
Ah non, moi, je ne vais jamais sur le web, en
c'est
fait.
C'est vrai ?
Ouais, je suis vraiment pas du tout connectée. Je l'utilise pas, quoi.
Plus Minitel ou quand ça...
Non, mais enfin, si je vais sur Internet, c'est pour chercher une adresse ou mm-hmm. mais je regarde pas de vidéos.
De l'utilitaire, quoi. Voilà.
Non, mm-hmm. rien
vous
du tout.
Vous risquez d'être maman de gens qui consomment du web.
Non, alors, avec mes enfants, pour le moment, ils ont 8 et 5 ans, ils utilisent pas du tout Internet. Ils vont pas du tout, voilà.
Dans 3-4 ans, ça va vous tomber dessus.
Oui, mais je vais gérer, je leur explique, mais pour le moment, je suis pas du tout là-dedans, moi.
Mm-hmm. Alors, j'ai lu aussi que vous n'aviez pas la télévision.
Non, j'ai pas.
Donc, vous saviez pas ce que c'était les nuls ou les bronzés, vous expliquez, vous regardez. Des films, quoi, tout ouais, simplement, ouais. Des cassettes vidéo.
Ce qui n'est pas
films.
Forcément une bonne chose, hein. Mes enfants, heureusement, vont chez leurs grands-parents qui leur montrent dans la semaine une heure de télé, mais mm-hmm. c'est vraiment un truc qu'ils ne font pas, quoi. Mm. Alors, ils lisent plutôt et beaucoup.
Oui.
Ouais.
Justement, l'écrit, ce qui est d'ailleurs le thème central de la pièce, hein, dans tout ce que vous voulez. Eh bien, ce blogueur, Hossein Derakhshan, écrit une tribune dans Libération aujourd'hui. Donc, après 6 ans d'isolement, il fait ce constat que la vidéo a supplanté l'écrit, parce que le web a commencé avec beaucoup de blogs. Maintenant, les blogs sont en vidéo. Et il dit, vu que la télévision a déjà contribué à dégrader le débat public, il alerte sur cette évolution du web. Et il dit d'ailleurs, maintenant, Facebook ressemble à l'avenir de la télévision. Vous qui faites aussi un métier d'image, le cinéma, l'écrit, c'est la base de tout.
Alors oui, mais là, vous me parlez tellement de charabia, je n'ai même pas conscience de Facebook. Donc, je pense qu'à partir du moment où on véhicule des idées, bon, que ce soit en image ou par écrit, c'est déjà bien. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'on continue à réfléchir. Donc, voilà. Après, je pense que le papier ne disparaîtra jamais. Enfin, moi, je lis sur les tablettes les scénarios, mais un livre reste un livre avec le ketchup, le thé, les pages cornées, l'odeur. Et je pense que les gens, ils se lasseront pas de ça. Donc, on a plus de choses et... Je sais pas, j'essaie de pas être pessimiste
vous
par rapport à tout ça.
Que vous-même, vous êtes actrice, mais pas créatrice, vraiment, enfin, si ce n'est du personnage. Ça vous titille pas quand vous jouez ce rôle d'écrivain, de temps en temps, de vous mettre devant une feuille blanche pour écrire des choses?
Moi, j'écris tous les jours, pratiquement. Ah oui. J'ai un journal depuis que j'ai 10 ans.
C'est vrai?
Ouais.
Ça en fait des volumes.
Et donc c'est quoi? C'est la peur de l'exposer aux autres? C'est que pour vous?
Ah non, mais je le donnerai jamais à personne. Vous. C'est tellement inintéressant.
Je ne vous demandais rien.
Eh bien, on l'a retrouvé. Il est avec nous.
Non, mais c'est que j'aime écrire et je pense que c'est important de s'exprimer, mais c'est pas forcément intéressant.
Alex Vizorek a écrit lui aussi. Il aime l'écriture.
Et oui, comme vous êtes comédienne, tous les jours, on propose un sketch à l'invité qu'il accepte tous les jours avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, je vous propose le rôle de Marion Cotillard.
D'accord.
Car suite aux événements Angelina Jolie Brad Pitt, la rumeur qui revient, c'est qu'il aurait fricoté avec Marion sur un tournage. Angelina Jolie, elle avait même engagé un détective privé. Ce matin, sur RTL, elle a dit « Je suis dévastée par ces rumeurs. On a l'enregistrement. Vous êtes Marion Cotillard, Guillaume Meurice, le conseiller com.
Je
suis
siège,
journaliste
pas.
Sur RTL. Bonjour Marion Cotillard, comment allez-vous ?
Mal, très mal, je suis dévastée.
Ouais, c'est bien, parfait Marion, c'est bon. L'affaire Brad Pitt, ça vous a fait souffrir ?
Entre autres, vous savez, moi je suis à fleur de peau et j'ai beaucoup d'empathie.
Ouais, c'est parfait. Vas-y.
Quand je parle de la Syrie, ben je souffre.
Ouais, putain, c'est bien ça. Vas-y. Ouais.
Et quand un enfant pleure, je souffre.
Très bien.
Et quand un moustique s'écrase sur une fenêtre, je souffre.
Ouais, n'en faites pas trop quand même, Marion.
Quand je croque mon Chocapic, je souffre pour lui.
Putain, ça y est, elle en fait trop. Non, c'est... D'accord, je crois qu'on a compris. Mais je voulais revenir donc, sur l'affaire Brad Pitt.
Voilà, alors là vous dites, vous croyez pas qu'il y a des sujets plus importants?
Dites, vous croyez pas qu'il y a des sujets plus importants?
Non, sans le dites. Ah. Pas dire le dites. Oui.
C'est confus. Quel sujet, par exemple?
Hier, j'ai mangé un peu d'ananas et là, j'ai un aft.
Marion Cotillard, aujourd'hui, vous êtes à l'affiche d'un film de Xavier Dolan.
Oui, il est très sensible. Quand un moustique s'écrase...
Oui. Un film avec Léa Seydoux, notamment.
Elle est très sensible aussi.
Oui, j'imagine.
C'est parce qu'elle est née dans la rue.
Oui, justement. Oui. Quels sont vos amis, alors, dans le milieu, que vous n'allez plus avoir, d'ailleurs?
Parce que je découvre quand même,
oui,
en même temps. J'adore Bérénice Bejo. Ah. Elle a énormément de talent. Et vous savez quoi?
Elle est très sensible.
Comment vous le savez?
Et Angelina Jolie, vous...
Oh, elle est très sensible.
Oui, je me doute. Oui.
Quand je l'ai appelée pour lui rendre Brad...
Non, putain.
Oui, mais dites-le nous, du coup...
Ça a sonné occupé, dites.
Ça a sonné occupé.
Ah, ouais.
Et le fait de ne pas décrocher le téléphone, c'est une preuve de sensibilité.
Oui, donc vous ne dévoilerez rien sur votre histoire.
Voilà, c'est ça. Balance la promo, là.
Si, je vais écrire un livre sensible.
Et qui s'intitulera?
Bah, c'est inspiré d'un de mes romans préférés.
Tristan et Iseut.
Non, ça s'intitulera Thank You for This Moment. L'avantage des florilèges, c'est que même le mardi, il est là.
Mais oui, le chanteur, le barde Frédéric Fromet, qui nous chante Le Karcher. Je dois pas vous rappeler l'actualité que ça raconte. Qui est entré dans le studio, Juliette?
Ah, Alex, il est mon ravissement de la semaine.
Oula.
Son chant, sa voix, sa cruauté, il mériterait que Fromet rime avec Chardonnay. Oh, ça rime! C'est un miracle! Frédéric, de quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, c'est Valérie Pécresse qui a su capter toute mon attention. Puisqu'elle ressort des vieux slogans, j'ai ressorti une vieille chanson. Sa famille habite avec un Karcher, bienvenue chez les LR. Ils ressortent les vieux slogans d'avant-hier, bienvenue au RPR. Bientôt ils pourraient même agiter, je crois, le fantôme de Charles Pasqua. Et même pour les plus vilains, les bonnes recettes de Pétain. Ils nous disent, vous aurez le Karcher et les militaires. Je leur dis, méfiez-vous, qu'en s'attaquant aux voyous, l'armée ne commence pas par vous. On dirait que ça vous gêne de marcher. cacher dans les clous. On dirait que ça vous gêne de faire ménage chez vous. C'est le moteur du Karcher. Chaque fois qu'ils nous font le coup du Karcher, j'ai très peur pour les LR. On en connaît plein qui tremblent dans des affaires, on en connaît des pas clairs. Sans compter les marlous de la concurrence, déjà multicondamnés. Vous avez raison, ah, elle est belle la France, Éric Zemmour a un casier. Alors s'il s'agit de traquer les brigands, c'est pas gentil pour Claude Guéant, c'est pas gentil pour Balkany, c'est pas gentil pour Sarkozy. Ils nous disent, il est temps de mettre hors la loi les caïds. Je leur dis, bonne idée, commencez par votre parti. Faites taire Éric Ciotti. On dirait que ça te gêne les pratiques de mafieux. On dirait que ça te gêne pas quand c'est hortefeu. On dirait que ça te gêne les vols, les infractions. On dirait que ça te gêne pas lorsque c'est Fillon. Encore le moteur du Karcher. On dirait que ça te gêne les affreux méchants. On dirait que ça te gêne pas lorsque c'est ton camp. On dirait que ça te gêne la violence des quartiers. On dirait que ça te gêne pas quand c'est ton QG. Et voilà.
Merci, merci. Frédéric Fromet featuring Michel Delpech.
De cette émission. Merci Alex.
Mais merci Charline.
Et merci à la technique à Michel Bézikian. Et là, vous devez me demander.
Mais Charline, demain, quel serait le programme?
Mais qui vient?
Mais qui sont les invités?
Nous recevrons Emmanuel DeVos et Michael Youn. À demain.
Excellente réponse.